façon que le Festival d'été de Québec. On a souvent parlé de la façon dont tu es allé recruter des petits talents ici et là. Tu montes ça des fois, c'est des années d'avance pour être capable d'avoir un artiste.
Le fait qu'il a une réputation.
Budget,
aussi, là,
oui, c'est ça. Phono, c'est, j'imagine, c'est différent. T'sais, oui, tu es attaché un peu au fait que c'est le petit frère, mais ça n'a pas la même ampleur nécessairement pour certains artistes. Fait que comment on s'y prend de ce côté-là?
Maintenant, c'est devenu, si on regarde ce qui s'est passé avec Bleu-Feu depuis, disons, une quinzaine d'années, on est passé de un festival à peut-être quatre en ce moment, avec deux salles de spectacle. Donc, la conversation avec l'industrie a beaucoup évolué à travers de ça. Puis c'est devenu un dialogue annuel continu. Donc, on parle avec ces artistes-là. Si on parle à Somber ou à Gims, ben oui, on va dire juillet, ça a l'air de quoi? Septembre, ça a l'air de quoi? Y a-tu d'autres opportunités? Y a-tu des shows en salle qu'on peut
c'est
faire?
C'est comme un peu votre débordement aussi, là, pour quelqu'un qui peut pas. Tu sais, comme tu as nommé Somber, qui est mon coup de foot de la dernière année et demie sur le plan de la musique. C'est incroyable. Puis il y en a plusieurs qui s'attendaient à le voir au Festival d'été de Québec. Il n'était pas là. C'est-tu une opportunité comme ça?
Ben,
ou
oui,
encore,
absolument.
Vous avez été chanceux puis vous l'avez booké bien avant que tout ça explose?
Ben un peu des deux, mais y a tellement d'artistes à travers les années qu'on a échappé au fait que des fois, c'est pour une question d'une semaine,
c'est
de quelques jours.
C'était pas Billie Eilish que tu nous avais parlé aussi, là?
Il y en a, là, il y a une liste très longue. Souvent, quand les gens vont dire, écoute, il me semble que les dates marchaient, il était pas loin, il est en Amérique du Nord, il est pas là, ça peut être une histoire de trois jours.
Ouais.
Qui fait que, écoute, on n'est pas capable de le faire le 14, on commence le 17. Et puis ça amène des conversations pour dire « OK, on a une autre opportunité. » Et puis, parfois, ça fonctionne. Puis, à l'inverse aussi, il y a des artistes qu'on voyait. Il y a des artistes qu'on les voit puis on se dit « Oh, Phono! » Maintenant, après trois ans, là, on se dit « Ça, c'est là qu'il faut que ça aille. » Puis on commence par cette conversation-là. Puis des fois, on se fait dire « Ah, septembre, oublie ça, il n'y a rien à faire. » Puis on dit « Ben, le fait que ça pourrait être cool aussi, ben, mais-en. » Puis il y a des artistes qu'on destinait à Phono qui sont au FEC. Et il y a des artistes qu'on destinait au FEC qui sont à Phono. Tout ça ensemble, ça fait une offre le fun pour la ville à des périodes différentes avec une variété d'artistes différentes. C'est des offres qui sont complémentaires, on pense.
Je voulais s'entendre un peu, Somber, si vous voulez les replacer. Là. Ben, le replacer, en fait.
Lui, c'est en ligne sur une grande tournée. C'est un privilège de l'avoir à Québec dans un contexte comme Phono. C'est un vendredi soir, c'est lui qui va être la tête d'affiche. Ça se gère comment, un gars comme Somber?
Ça prend de la chance, ça prend du relationnel. L'équipe de Somber, c'est des gens avec qui moi je travaille depuis aussi longtemps que je me rappelle, avec beaucoup d'autres artistes, qui là, à un moment donné, eux se rendent compte qu'ils ont une pépite. Lui est sur une trajectoire où il essaye de faire les choses une étape à la fois autant que faire se peut, parce que ça va très, 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 très vite. La prochaine étape, ce sera des arénas, ce sera des tournées. Et avant ça, ils ne voulaient pas ajouter des choses dans leur plan. Eux autres sont en train de préparer, ils sont trois coups en avance aux échecs. Toutes les conversations portent sur l'autre album qui n'est pas encore, même pas annoncé, si planifié que ça. Et ils sont en train de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils gèrent 2027, 2028. Et puis, on a réussi à attraper peut-être la fin de la première...
Vague de planif.
De planif de ça, puis juste avant de lancer la seconde. Fait que c'est comme un dernier moment avant de passer à autre chose. Le timing pouvait fonctionner. On s'est trouvé un partenaire pour amener plus de dates. Puis, il y a beaucoup de chance. Et de confiance mutuelle, etc., etc. Puis là, bien évidemment, on espère que ceux qui ne savent pas de qui on parle en ce moment, allez l'écouter parce que...
C'est solide.
Vous allez savoir c'est qui pour le restant de votre vie.
Oui,
mais là, on est encore assez tôt quand même dans cette vague-là pour Somber.
Gims, je ne sais jamais comment le prononcer.
C'est Gims,
hein, c'est
Gims.
Ça. C'est vraiment énorme. Puis, il était dans les rumeurs pour le FEC. Est-ce qu'il s'est ramassé à Phono parce que ça n'a pas marché au FEC? Parce qu'on entendait aussi des rumeurs que Fred serait une tête d'affiche à Phono. Fait que j'imagine que ça fait partie des choses avec lesquelles on joue.
Ouais, mais les rumeurs, je t'avoue que...
Il y en a tellement, là.
50% du temps, je suis comme...
Ils ont pris ça où?
Comment, mettons, j'essaye de voir par quel... Tu sais, je comprends qu'il y a du monde qui a de l'information, mais... comment tu peux avoir attaché les pointillés pour te rendre à certaines conclusions comme ça qui parfois sont complètement surréelles où il n'y a même pas eu le début d'une conversation puis on entend des choses, c'est certain, c'est à peu près ça, c'est dans la poche. Ça, il y a quelqu'un quelque part qui s'est confié et c'est quelqu'un qui ne détenait pas d'informations ou qui, pire, a voulu faire une blague peut-être. Je ne sais pas comment ça arrive. Mais d'autres fois, les rumeurs sont exactement dessus. Il y a quelque chose qui sort à un moment où je pense qu'il y a juste moi qui le sais. Puis je suis comme, oh boy, OK, ils savent la date. T'sais, des fois, c'est pareil comme si c'est moi qui l'avais dit. Mm-hmm. Fait que il faut en prendre
et en laisser.
Et en laisser.
On va faire un tour quand même rapide de la programmation parce que là, on parle des deux gros noms, mais je veux dire, il y a des noms comme Natasha Bedingfield qui ressortent et qui font jaser beaucoup de gens quand même. Chanson que tout le monde connaît. Comment une Natasha Bedingfield se retrouve à Phono? Elle revient dans l'actualité, elle?
Oui, elle revient dans l'actualité avec beaucoup d'autres. La cohorte de 1995 à 2015 fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est une génération d'artistes qui a réussi à toucher, à cascader vers un nouveau public. Puis c'est pas systématique, c'est pas tout le monde dans cette démo-là qui est de retour. Ils reviennent un par un.
C'est vraiment l'effet des médias sociaux puis de la culture populaire. Tu sais, dans le cas de Unwritten, il y avait eu un buzz sur TikTok. Puis il y a eu un film qui est sorti il y a 2 ans de ça avec Glenn Powell puis Sidney Sweeney.
Oh mon Dieu,
c'était la toune. C'est Anyone But You.
Oui, exactement.
N'importe qui sauf toi. Lui a le vertige puis écoutait cette toune-là puis c'est la toune du film. Puis ça a créé une commotion et un retour de Natasha Bedingfield.
Oui, puis ça, c'est comme ça. Un autre, c'est un phénomène sur TikTok qui arrive, etc. Il y a chacun une raison, un moment. Quand Blink-182 a fait 0 à 100 en dedans d'un an, pourquoi? Je veux dire, j'ai rien contre Blink. Nous, quand on les a fait au Festival d'été, c'est un an avant que ça se passe. C'était super, c'était un beau band, comme de la nostalgie comme il y en a d'autres. 2 ans plus tard, je faisais des stades.
À 2 000 $ le billet.
Ils n'ont jamais fait des stades. Ouais. Ils n'ont jamais été dominants.
Mais dans les dernières années, vous avez fait Avril Lavigne, Simple Plan l'année passée.
Puis tu ne sais pas quand. Puis, en fait, tu dis comment ça arrive quelqu'un comme Natasha Bedingfield. Mais nous autres, évidemment qu'on est à l'affût. On a mesuré cet engouement-là. On l'a vu. On voit ce qui se passe ailleurs. On voit ce qui se passe chez nous. Puis là, on a le radar sorti pour dire qui va bénéficier de ce mouvement-là les prochains. Pourquoi, quand? À notre humble avis, elle, qui a été partie des ondes pendant 10 ans, qui a pris une retraite que plusieurs pensaient, et là, qui revient. Si elle avait continué, ce serait peut-être déjà arrivé. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas aussi important que Kesha, par exemple, en ce moment. C'est juste la façon dont ça a été travaillé, le momentum, la façon dont l'artiste s'est ramené, la façon dont la nouvelle génération a accepté ces chansons-là. On pense qu'elle est sur cette trajectoire-là, puis on le voit dans toutes sortes d'affaires. C'est sûr que ça, c'est un coup de main. Vous allez voir, quand ça va se passer, ça a des chances d'être top 2, 3 des moments clés cette édition-là.
Honnêtement, on est une gang, nous, à viser cette soirée-là qui va être avec Somber.
Avec Somber.
Ça va être complètement capoté. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que là, tu mélanges les générations. Ouais. Il va y avoir du monde de partout. Ça va vraiment être capoté.
Oui, puis après Somber, il y a Angus et Julia Stone qui finissent sur la scène boisée, qui c'est pas la tête de l'affiche de la soirée, mais ils jouent après, comme ça se fait beaucoup dans des festivals européens où les têtes d'affiche jouent plus tôt, puis le festival continue après. Mais Angus et Julia Stone, en 2010, c'était la fin du monde. C'était un des artistes les plus demandés au Festival d'été de Québec. Partout, on était bombardés de demandes. On a essayé de les faire. Ça fait depuis 2010 qu'on essaye d'avoir ce band-là en salle. La popularité s'est calmée un petit peu parce qu'ils sont partis dans des carrières solo. Mais là, ils sont ensemble. Puis pour une tonne de monde, ça va être le moment peut-être le plus fort de l'événement aussi. C'est des beaux...
Il y a Fred,
des beaux bands, des beaux projets.
Alessia Cara, Ariane Moffat est là, Sophie Tucker. Il y a vraiment des beaux noms dans la programmation. On va jouer au jeu habituel avant de te laisser partir, Louis. Puis je te garantis pas que je vais être aussi rapide que Denis, là. Mais mettons que tu me nommes 3 noms qu'on doit absolument découvrir. Parce que pour moi, Phono, c'est ça aussi, là. C'est de découvrir des artistes, d'aller sur les autres petites scènes, de se promener dans la journée. Fait que je te laisse aller.
Tu peux essayer de quoi de rigolo? Techno Brass, dans un seul mot. c'est un band d'électronique et en fait, ils jouent des instruments avant, mais ils font un peu de la musique électronique. Au lieu de le faire juste avec des beats, c'est une espèce de fanfare. C'est des Brésiliens. Il y a des Brésiliens, des Français puis des Argentins dans ce band-là qui se sont mis ensemble à un moment donné pour faire de l'électro avec des instruments avant. ça brasse, ça groove. C'est le genre d'affaires bizarres que tu tombes là-dessus à un moment donné par hasard dans la job qu'on fait, puis tu dis « Ah, ça, c'est du bonbon. » Puis on avait eu quelque chose dans ce genre-là l'année passée à Phono qui est... Personne ne sait c'est quoi, ça part, rendu à la fin du set, c'est le délire.
Mais t'embarques.
T'embarques. Fait que on ça, c'est un bon cue à avoir.
Hey, c'est donc bien hot, ça.
C'est vraiment trippant. Ouais.
Ça, c'est du party en cam, là. T'sais, c'est sûr que ça lève.
Ensuite de ça.
Tu peux essayer Baby Nova. En deux mots, Baby Nova, fille de la Nouvelle-Écosse. Baby Band, là, vraiment, au tout début de cette carrière-là. Pour les fans de Lana Del Rey, par exemple. Mm.
Ah, c'est très planant, effectivement.
Puis, ça, si ceux qui la vendent ont raison, ça va se passer à un moment donné. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette fille-là. Une grosse attitude, beaucoup de talent. Fait que ça peut être une belle trouvaille pour plusieurs. C'est beau, beau, beau.
Vraiment. Ah, ça me parle vraiment, ça. Mettons qu'on se donne un dernier nom, là. Le show que toi, tu ne manques pas définitivement, à part les gros noms, encore une fois.
Moi, ça va être Somber.
C'est sûr, hein?
À part les gros noms, mettons, dans tes découvertes, là.
Essaye Sébastien Gaskin. Sébastien, en anglais, Gaskin, G-A-S-K-I-N. C'est un Canadien issu des Premières Nations qui est hyper créatif, qui fait de quoi complètement original. Pardon. Très, très allumé. C'est du haut niveau de créativité. C'est quelqu'un que les gens connaissent pas, j'en doute pas, puis qui mérite à être connu aussi.
Ça s'appelle Ghost, ce qu'on écoute.
Une espèce de soul, voix un peu Sam Smith.
Très actuel.
Très actuel. Puis il intègre des éléments aussi plus typiques de ses origines aussi musicalement à travers quelque chose de très actuel.
C'est accessible au bout, là.
Oui. Ça, c'est genre 6h30 le vendredi, juste avant Natasha Bedingfield sur l'autre scène.
Bien, définitivement, mais j'y serai.
Je pense qu'on aurait pu écouter le line-up au complet, puis il n'y a rien de plate là-dedans.
Là,
Marco
Emma,
un Québécois qu'on adore, qui a un super album qui vient de sortir en janvier, Goodbye Carrel, c'est vraiment top aussi. Sofia Camara, nouvelle star de la pop aussi, qui monte très, très vite. Il y en a plein.
Je vais tirer une balle
Tirer une balle.
C'est pas bien dit, hein? Non, tirer une roche, lancer une balle à Éric Girard. J'allais dire, on aurait pu faire ça tout le show, mais parce
que c'est terrible ce que tu viens de dire.
Non, non, j'ai glissé, hein, tu m'as vu. Lancer des roches, prenez-le comme vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu écouter la musique toute l'après-midi pour la programmation de Phono. Malheureusement, il va falloir qu'on te laisse aller, Louis. Mais c'est toujours un plaisir de te jaser. Louis Bellavance, qui est directeur de la programmation pour Bleu Feu, donc autant pour le Festival d'été de Québec que pour Phono. J'ai vraiment le don de me mettre les pieds dans les plats.
Festivalphono.com, la billetterie est ouverte depuis midi. Il y a des passes 3 jours qui sont disponibles. Yes. Ça va être au mois de septembre du 10 au 12. Puis si vous aimez les découvertes musicales qu'on vous fait faire avec le FEC, vous allez vivre la même affaire avec Phono, mais sur un tout autre terrain.
Je pense que je vais aller prendre un café, là, remettre mes mots en place dans ma bouche. Merci. On revient dans quelques instants. Gravel en retour jusqu'à 18h. Gravel. On entre tranquillement pas vite dans cette heure où c'est de moins en moins fluide. Sur les routes, c'est des classiques, par exemple. Capitale, direction est à la hauteur de Robert Bourassa. Déjà, on sent un ralentissement. Ouest, hauteur Laurentienne. Ça commence aussi à être problématique dans le coin de Shannon, devant la base militaire, route de la Bravoure, dans les deux directions. Quand je regarde l'entrée des ponts, ça n'a rien à voir avec hier, évidemment. Mais si vous êtes sur Henri IV, là, direction sud, à partir de versant nord, je vous dirais, ça ralentit vraiment jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pour ce qui est de la Rive-Sud, ceci dit, ça se passe quand même bien. À la météo, c'est moins 10 en ce moment, ressenti moins 18, gros soleil à l'extérieur. Ça fait du bien, on dirait, avec les derniers jours qu'on a eus. Par contre, il ne faut pas s'attacher parce que dès demain, on est en faible neige intermittente. Ça veut dire qu'il va faire pas mal nuageux. Avec un 0 degré vendredi, 2 degrés, 70 % d'averse de neige ou de pluie. Ça va être au feeling. Et samedi, ben, c'est 1 degré avec le soleil qui serait de retour techniquement. On va parler d'un sujet qu'on traîne depuis un bon bon moment quand même parce
que... J'en fais une obsession.
Oui, mais je trouve ça super intéressant. On se ramène dans les Olympiques. Okay? Pendant les Olympiques, on a parlé beaucoup du nombre de médailles de la Norvège. Mm-hmm. Le sport qui, là-bas, est en partie financé grâce à la loterie d'État.
Ouais.
Puis là, ça amène... En fait, ça ouvre une boîte de Pandore à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, avec ça, si, mettons, on entrait... une partie des revenus de l'Auto-Québec, mettons, là-dedans?
En fait, en décidant par l'achat d'une loterie précise ou d'un gratteux précis, qu'une portion des revenus d'Hydro-Québec, pas d'Hydro-Québec, mais de l'Auto-Québec, aille à des projets et que ce soit les gens qui choisissent
où ils mettent leur argent.
Où cet argent-là va. Parce que, par exemple, pour l'exercice 2024-2025, donc le dernier exercice de la Société d'État, il y en aura un nouveau qui va être soumis sous peu, c'est des profits de 1,5 milliards de dollars, une hausse de 6,7 millions par rapport à l'année précédente. Puis, il y a une portion de tout ça qui proviennent, bien sûr, des activités de casino et de salons de jeu. Mais tu sais, reste que le jeu à gratter est ultra populaire. Puis, je me suis dit, si on se disait que les gratteux, tu sais, il y en a qui les achètent systématiquement, il y en a qui n'en achètent pas pantoute, ils ont des gratteux avec des faces de chat dessus. Pourquoi on ne décidait pas que ces gratteux-là, il y a une portion du montant qui va pour les refuges, pour les animaux? Mm. Aujourd'hui, il y a un budget qui va être déposé à 16 heures. Puis là, on va être comme, OK, il y aura un manque à gagner dans tel secteur. Puis c'est sûr qu'on regarde toujours les plus gros postes budgétaires. On va parler de l'éducation, de la santé. Mais dans un tas de communautés, il y a des projets qu'on voudrait voir avancer. Il y a des projets communs qu'on voudrait voir avancer. Le sport amateur en fait partie.
Absolument.
Je comprends que c'est pan-canadien, mais si on décidait qu'au Québec... Pour nous, c'était important.
Tu sais, mettons, ton gratteux te coûte 2 piastres.
Oui. Ben, c'est ton gratteux que... va vite qui encourage le patinage de vitesse.
Genre.
Juste le sport amateur
pièce,
en général.
Une pièce qui va au patinage de vitesse.
Exactement.
Ou un sur la santé mentale ou sur l'itinérance, puis là, ça s'en va à des organismes, mettons.
Parce que, tu sais, il y a certains projets spéciaux au Québec qui sont déjà financés par des loteries à plus petite échelle. Dans le secteur où mon frère demeure, la municipalité de La Rouche, on avait décidé de lancer une loterie pour aider à financer une portion des rénovations puis de la construction de la patinoire dans des hôpitaux. Tu as tellement souvent des loteries qui vont être des espèces de moitié-moitié pour couvrir des projets qui ne peuvent pas faire partie du budget qui est alloué par le ministère de la Santé, mais que le sentiment d'appartenance va stimuler ces achats-là puis va permettre de rendre tangible. Des fois, ça va être une salle pour accueillir les familles qui peuvent être endeuillées, par exemple, ou encore des salles de jeux pour des enfants malades.
Mais ça me fait penser au Centre Mère Enfant Soleil avec la maison Laura les Merveilles. Oui. Puis,
mais quand on fait les vœux ici,
les vœux Noël, ben oui. Il y a des soins palliatifs ou il y a des soins de réconfort qu'on donne qui ne peuvent pas être financés. Puis ça pourrait être une façon, effectivement, d'aider.
Ça se fait ailleurs dans le monde. Puis là, j'ai hâte d'entendre Antonine là-dessus.
Je la vois
sourire, qu'elle a des
là.
Choses à faire. En Australie, la loterie nationale sert en partie à financer la santé publique et des projets de protection de l'enfance. En Amérique du Sud, il y a des loteries d'État pour financer des hôpitaux, des hospices, des œuvres de charité. Au Luxembourg, il y a carrément une espèce de concours, de grand concours pour soutenir les œuvres de la Croix-Rouge. En Suède, c'est dédié à des musées, des hôpitaux, des institutions d'art, de musique, de littérature. Tu sais, tu décides que tu as le goût là, que les arts, parce que là, il y a eu des coupures dans la culture. Il y a des musées dont les heures d'ouverture ont été diminuées, fait que ça coupe dans les
toi,
dans
c'est ton intérêt culturelles. Est là, là.
Si ton intérêt est là, puis que tu décides que tu as le goût de gratter à face de je sais pas trop quelle œuvre d'un peintre québécois, puis qu'il y a un montant qui s'en va là-dessus.
Moi, j'adore l'idée, mais je me demande si c'est pas trop beau pour être vrai.
Ah,
je me demande
trop beau
c'est
pour
quoi
être vrai,
le,
ça arrivera jamais. Mais moi, je suis curieuse sur la faisabilité. Je me dis, ça se fait ailleurs. Et là, c'est là que je me tourne vers Antonine Icarini avec son expérience politique.
Ben, en fait, je suis d'accord. En fait, je pense que c'est un outil qui est sous-utilisé,
tellement.
Qu'on pourrait mieux utiliser. Par contre, il y a peut-être des effets pervers auxquels il faudrait faire attention. Tu sais, tu dis, c'est utilisé ailleurs dans le monde. Je ne sais pas si c'est dans des juridictions où ils payent autant d'impôts déjà que
c'est sûr
nous.
Qu'on est très imposé, mais la loterie reste un impôt déguisé de toute manière.
De toute façon. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, je pense qu'il faut le voir dans sa globalité parce que déjà, on paye beaucoup d'impôts. On peut faire des dons aussi. Hein, tu sais, les gens sont, tu sais, si vous pouvez plus donner à des causes.
On a tellement moins ça dans notre vie.
Non, mais c'est vrai, mais... Tu sais, quand vous faites un don à un organisme directement, là, premièrement, c'est pas géré par le gouvernement provincial, puis c'est mieux de même. Ça vous donne des crédits d'impôt, tu sais, 50 % en philanthropie, tu sais, qui vous revient dans vos poches de façon générale. Donc, tu sais, moi, je me méfie toujours quand c'est géré par le gouvernement. J'ai toujours peur que ce soit lourd.
Même chose que toi.
Puis que là, on perde plein d'argent en administration et tout ça. Fait qu'il faudrait que ce soit vraiment fluide. Autre élément, c'est que j'ai peur que les causes les plus sexy ramassent plus d'argent. Mm-hmm. Puis il y a des causes qui sont moins sexy aux yeux des gens. T'sais, c'est pour ça que...
Comme?
T'sais, ben, par exemple, c'est sûr que les causes qui touchent les enfants. T'sais, là, les gens ont tendance à plus donner. Puis il y a des causes un peu moins...
Tu penses qu'on donnerait moins pour les personnes âgées?
Peut-être, effectivement. tu disais, par exemple, les sorties culturelles, ce serait tellement génial si on pouvait... Moi, là, je te prédis que les sorties culturelles, là, ça sera pas la priorité de personne, ça pognera pas. Et que c'est mieux que, dans le fond, on achète nos billets chez l'Auto-Québec puis que le gouvernement finance le culturel, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être pas beaucoup de succès.
Et moi, ma peur serait peut-être là, tu sais, que le gouvernement donne moins parce qu'on priorise ce genre de projet-là.
Effectivement, ça pourrait aussi, mais en même temps, le gouvernement a cette responsabilité-là de soutenir des choses qui sont peut-être des fois un peu moins populaires. Bon, politiquement, on peut vouloir faire des annonces avec des enfants malades, puis un peu moins avec... Mais, tu sais, il faudrait faire attention que ça demeure avantageux pour certaines causes qui pourraient être un petit peu moins populaires.
Si ça peut être ponctuellement, parce que, tu sais, il me semble que ce serait tellement plus vendeur de dire « Hey, vous payez un impôt déguisé parce que vous aimez ça gratter un billet, mais on vous garantit qu'il y a tel pourcentage qui va s'en aller. Mettons, cette année, la cause, c'est telle chose. Mm-hmm. Mais encouragez-le, fait que, tu sais, ça évite peut-être la compétition ou le projet spécial.
Ah, mais ça, j'aille pas ça. T'sais, on n'a pas d'argent dans le budget pour en mettre plus de ce côté-là, mais on voit que c'est quelque chose qui vous importe.
Ça va être une excuse pour le gouvernement, par contre, pour mettre moins d'argent.
C'est ça qui peut arriver aussi. On est cynique. Mais avec raison, parce que des fois, des belles idées comme ça, il peut avoir des effets pervers qu'on ne voit pas.
Ailleurs,
là,
ça fonctionne, mais ça va être l'autre affaire. Là. Il y a plein d'affaires qui fonctionnent ailleurs puis qui ne fonctionnent pas ici. Là.
Mais là, arrive la solution, moi, que je trouve, c'est les projets pilotes. Pourquoi pas faire un projet pilote? On voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. On regarde ce qui a été fait ailleurs. Puis quand un projet pilote, quand ça ne fonctionne pas, ben, tu ne le renouvelles pas et
tu le laisses tomber.
Ah, ouais. C'est une bonne idée. Regarde, le message est lancé aux partis politiques, on est en année électorale.
Oui,
mais... Proposez-nous des affaires.
Je trouve toujours ça drôle puis intéressant parce que je me dis, nous autres, on est là puis on jase là, un mercredi après-midi puis on refait le monde puis Véro, t'arrives avec cette idée-là puis il n'y a pas de ces idées-là qui se développent au sein des partis ou des jasettes
de
comme ça qui viennent naturellement
de penser.
J'ai
l'impression qu'on tourne toujours dans la même boîte.
En fait, on essaie de sortir de la boîte, j'ai l'impression.
Mais on essaie aussi de se sortir des partis politiques qui font des promesses qui n'ont pas d'allure sur le coin de la table. Fait que, oui, on lance l'idée, mais faites-le pas sur le coin de la table, s'il vous plaît. Hein, parce que des promesses électorales bizarres là, qui se réalisent pas.
Puis là, tu sais, on va arriver à la fin de la CAQ, puis on va faire un bilan de voici toutes les promesses qui ont été faites, voici les engagements qui ont été pris même pendant qu'on était au pouvoir, et voici ce qui aura été réalisé. Ça va faire longtemps, mais c'est le même souvent avec plusieurs partis qui prennent le pouvoir. Là. Ben, en fait, tous les partis.
Il y a un outil intéressant qui s'appelle le Polymètre de l'Université Laval qui monitore les promesses électorales réalisées.
Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui.
Puis honnêtement, ça va peut-être faire baisser votre cynisme. Parce que la majorité des promesses électorales sont remplies. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont des promesses fortes. T'sais, par exemple, le troisième lien, ça vaut plus que...
Les grosses dont on entend tellement parler.
Quand il y a un recul là-dessus,
ça prend plus de place. Ça se peut-tu, tu me dis si je me trompe, Antonine, mais il me semble que ce qui est réalisé, ce qui ne l'est pas, puis ce qui est en cours,
exactement.
Ça se peut-tu?
C'est vraiment bien fait. C'est vraiment intéressant. C'est depuis 2012 que c'est en place. Bon, des fois, les partis politiques ne sont pas d'accord avec la méthodologie, puis trouvent qu'ils sont sévères, mais justement, c'est vraiment le fun d'avoir un outil comparatif. Et moi, je trouve que ça fait réfléchir les partis à ne pas promettre n'importe quoi.
J'ai vraiment pas l'idée, par exemple, Véro, honnêtement. Vous en pensez quoi? 88-971-1021 texto. Avant d'aller à la pause, peut-être juste vous rappeler, sur le boulevard Lormière, je vois sur la carte qu'il semble y avoir un accident à la hauteur du boulevard de l'Auvergne. Ça commence à ralentir pas mal sur les routes. Là, ça s'ajoute, c'est la capitale direction Est. Bon, c'est un classique. Ouest-Laurentienne, c'est pas mal présent. Je vous dirais Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la capitale. Difficile également. Et l'entrée des ponts, je vous rappelle. Quoi que ce soit d'autre, vous gênez pas. Au retour, on parle d'une génération d'enfants Pinocchio. Et notre invité saura peut-être vous donner un peu plus de détails sur le parallèle qu'elle fait, mais on a tellement parlé, on dirait, dans les dernières semaines, des parents peut-être un peu trop bienveillants, des fameux enfants rois, d'à quel point on donne peut-être un peu trop de lousse à nos jeunes dans le libre choix et pas tant de chouette, là. On a beaucoup de préjugés, en fait, par rapport à ça. Et là, on s'en va complètement à l'inverse. Peut-être les parents qui sont trop stricts, qui dirigent un peu trop, et les fait que ça peut avoir sur les enfants, évidemment, il y a une spécialiste quand on parle de ces choses-là. C'est SOS Nancy, Nancy Doyon, coach familial. On revient dans quelques instants à Boulevard 102.
Gravel! Boulevard! Tranquillité d'esprit vous attendent chez Lévis Subaru. Visitez lévissubaru.com.
Je ne sais pas si vous avez vu passer les nouvelles publicités de Saint-Hubert, mais je me reconnais tellement là-dedans alors qu'ils font la promotion de gérer les anti-voleurs de frites. Mettons que vous êtes cette personne-là qui, quand elle va chez Saint-Hubert, vous les aimez les frites trempées dans votre sauce, mais vous êtes accompagné de quelqu'un à la bonne conscience. « Oh non, moi, je ne prendrai pas de frites, je vais prendre la salade à côté. » Mais vous savez très bien que cette personne-là va venir piger dans votre assiette puis vous retirer des précieuses frites. Bien, à tous les clients en salle à manger au resto-bar Saint-Hubert qui, justement, commandent un plat avec une salade en accompagnement à la place des frites, vous allez recevoir, pour un temps limité, une poignée de frites dans un ramequin gratuitement. Question de laisser tranquille la personne en face de vous qui s'est payée du plaisir. C'est un autre des classiques de Saint-Hubert pour plus vous faire voler vos frites. C'est aussi le retour pour un temps limité du gâteau à l'érable dans vos restos Saint-Hubert de la région de Québec. Un décadent gâteau étagé à l'érable avec un fond de brisure, biscuits feuilles d'érable, une mousseline, une génoise à l'érable nappée de sirop d'érable du Québec. Et c'est accompagné, bien sûr, du célèbre biscuit feuilles d'érable Célébration. Un pur délice. Saint-Hubert, c'est un classique.
Le printemps est à nos portes.
On a toujours beaucoup de plaisir quand elle prend place en studio. Nancy Doyon, qui est coach familial. SOS Nancy, qui nous amène toujours des problématiques à régler, des solutions, des affaires qui se passent dans les familles. J'ai pas d'enfant. Véro a pas d'enfant, quoique. Elle a des enfants âgés entre 24 et 47 ans à 16 heures.
Oui, ils sont tous au même endroit sur le Bourgneuf.
Et Antonin a deux enfants, par exemple, et avec oui. une différence d'âge qui fait que tu vas pouvoir peut-être te reconnaître dans certains propos de Nancy.
On va voir. On va voir. Moi, chaque fois que Nancy vient, j'essaie de voir si je suis concernée, si je suis ce parent qu'on décrit.
On parle de la génération d'enfants Pinocchio. Nancy, c'est un terme que tu as donné pour qu'on puisse comprendre un peu où on s'en va avec l'histoire. Ça. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui n'ont pas tout à fait compris, ce que je comprends. Là, mais...
on m'ostine sur l'histoire de Pinocchio. En fait, pourquoi je parle de ça, c'est que les profs m'en parlent beaucoup, puis moi aussi je le vois. Je trouve qu'on voit beaucoup une génération d'enfants que si on les pas derrière eux pour tirer les ficelles, leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, on dirait qu'ils savent pas quoi faire.
Fait que c'est deux extrêmes qu'on a finalement.
Oui, ben en fait, oui et non. Tu sais, je te dirais, bon, enfant Pinocchio, parent Geppetto, mais si on se rappelle l'histoire de Pinocchio, là, au début de l'histoire, Pinocchio, c'est un pantin de bois. Et là, Geppetto, que c'est lui qui l'a créé, ben il a juste à tirer sur les ficelles, puis ben Pinocchio, il danse quand Geppetto voulait qu'il danse, il parle quand Geppetto veut qu'il parle, puis il dit ce que Geppetto veut qu'il dise, tu sais. Fait que, et Geppetto a le contrôle parfait dessus. Et là, ben, on a beaucoup de parents. T'sais, je parle beaucoup dernièrement des parents qui sont trop slack. Ouais. Les parents qui achètent la paix, qui sont dans la suradaptation.
Il faut laisser vivre.
Oui, c'est ça, le laisser vivre ses expériences. Mais je vois aussi des parents qui sont dans la surintervention. Qui, tu sais, je dis souvent, les enfants, c'est un peu notre bulletin de parents. Puis, il y a des parents qui veulent tellement bien faire, qui sont constamment derrière leur enfant pour lui dire, viens ici, assis-toi là, regarde la madame quand elle te parle, touche pas à ça, assis-toi droit.
L'enfant téléguidé, là.
Oui, oui, c'est ça. Et qui sont tout le temps en train de tirer sur les ficelles pour essayer que leur enfant se conduise toujours bien, fasse toujours les bons choix. Le matin, le parent fait l'horloge humaine. Lève-toi, il est 7 heures. Habille-toi, il est rendu 7h05. Viens, descend en bas parce que là, c'est l'heure de déjeuner, il est rendu 7h10. Mange encore trois bouchées, il est rendu 7h20. Et il lâche pas son
temps. Moi,
tout
c'était le
temps.
Même, par exemple, quand j'étais jeune.
Ben, ça gosse, ça.
Ben, en même temps, c'est drôle à dire parce que.
Oui, mais ça finissait par rentrer, non?
Ben oui.
Non, c'est ça, l'affaire.
Mais je pense que peut-être pas à cet extrême-là, mais dans le sens que ma mère, a collé les shots, là, fini de manger, oublie pas d'être brossé les dents, oublie pas de, la checklist, comme si ça y rappelait en même temps à elle que bon, OK, ça c'est coché, c'est fait,
mais
c'est fait. T'sais.
Présentement, ce qui se passe, c'est que de la garderie à la fin quasiment de secondaire, les enfants et les adolescents ont tout le temps un adulte dans le derrière pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, pour réfléchir à leur place, pour leur dicter quoi dire. Et à quelque part, chez certains jeunes, ce que ça fait, c'est que la switch tombe à off. Tu sais, ils se mettent à se dire, ben j'ai pas besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un quelque part qui va me dire quand est-ce que c'est le temps de mettre le nez dans mon travail, quand est-ce que c'est le temps. Je regarde pas l'heure parce que ma mère va me le dire quand est-ce que ça va être l'heure des devoirs. Je me demande pas si j'ai faim ou pas faim. Ben il y a quelqu'un qui va me dire, mange encore trois bouchées.
Mais ça sort d'où ça chez un parent? Parce que là, c'est dur. Puis là, je t'ai dit ça. Moi, je t'ai dit, chaque fois que tu viens, Nancy, j'angoisse. Là. Parce que là, tu sais, il y a le parent trop bienveillant qui est trop dans l'accueil des émotions de son enfant. Puis qui le laisse peut-être un peu trop aller avec un manque de cadre. Puis là, à l'inverse de ce que je comprends, de ceux que c'est plus qu'un cadre puis une clôture. Là.
Non, non, c'est ça. C'est tout le temps. À quelque part, c'est un peu comme si tu tenais l'enfant en laisse.
Mais pourquoi? C'est qui ces parents-là?
C'est un parent qui veut bien faire et qui a l'impression que c'est ça être un bon parent.
Puis tu sais, tu disais tantôt, moi, c'était comme ça chez moi. On me disais, là, tu sais, votre brosse à dents, machin, machin, mais est-ce qu'il y avait une évolution à travers les années? Parce que je pense qu'il faut le voir aussi en évolution. C'est sûr qu'un enfant de 3 ans, là, tu sais, c'est sûr là, qu'il n'ira pas se brosser les dents pour le fun à 19 heures, là.
En même temps, l'enfant de 3 ans, quand on lui dit « on s'en va à garderie », là, normalement, rendu à 3 ans, là, il sait qu'il faut qu'il s'habille pour aller dehors. Tu sais, il n'est pas supposé d'avoir besoin que je sois derrière lui pour dire « OK, mets ton pantalon d'hiver, mets la jambe droite, mets l'autre jambe, OK, lève-toi debout. »
Mais j'ai une hypothèse, alors. C'est que ça nous prend plus de temps, je pense, qu'on est pressé le matin, qu'on ne se lève pas assez tôt, là, en passant. Et ça nous prend plus de temps d'apprendre à quelqu'un à s'habiller, à être autonome, exact, que de le dire. Alors là, vient l'achetage de paix à l'envers. C'est-à-dire que, tu sais, il y a les parents qui achètent la paix puis qui acceptent
n'importe
quoi.
Qui l'habillent à sa place.
Exactement. Mais il y a l'autre côté où on se dit, hey, là, j'ai vraiment pas le temps, là, mets ton pantalon, exact, mets tes mitaines, mets ton cache-cou, mets ta tuque. Non, non, non. Puis là, le défi, c'est de se dire, ben, c'est quand qu'on prend le temps de le laisser
apprendre.
C'est parce que c'est un cercle vicieux. C'est que plus je suis derrière lui pour tout le temps lui dicter quoi faire, moins l'enfant développe le réflexe de penser par lui-même et plus j'ai l'impression que je dois toujours être derrière lui. Puis tu sais, dans l'histoire de Pinocchio, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la vilaine fée est passée et elle a transformé le pantin de bois en vrai petit garçon. Qu'est-ce qu'a fait Pinocchio?
C'est même mentir.
Mais avant,
il est allé se mettre dans le trouble.
Se mettre dans le trouble. Il s'est sauvé le plus loin possible de l'espèce de contrôle coercitif de son parent.
C'est très belle à un moment donné.
Et ouais, c'est ça. Et là, ben lui, il avait jamais appris à réfléchir avant d'agir. Fait qu'il s'est mis dans le chenoute. Il s'est trouvé des amis pour lui dire quoi faire. Puis il avait jamais appris justement à réfléchir. Ça a-tu de la lousse qu'ils me disent de faire. Fait qu'il est devenu très influençable. Et là, ben comme il avait jamais appris à faire des gaffes et à les assumer, ben oui, il a menti pour cacher ses erreurs.
Ah, parce que c'est ça, on le voit beaucoup. Tu sais, à l'adolescence, moi, j'en avais des amis là, que... Non, non, ça, moi, j'en parle pas à mes parents. Donc, ça, mes parents, ils savent pas. Je fais telle affaire, mais penses-tu que je vais dire à mes parents? Mes parents, ils pensent que je suis parfait quand je suis là, puis c'est bien correct de même. Puis ça crée une double vie, on dirait. Là.
Bien, en fait, c'est que quand je suis tout le temps derrière mon enfant pour le reprendre sur chaque affaire qu'il fait de travers, pour le guider, entre parenthèses, mais le diriger surtout dans chacune de ses actions, je suis en train de lui dire, faut pas que tu te trompes. Tu dois toujours faire la bonne affaire. Puis si, en plus, je suis un peu, tu sais, je suis parent Gepetto ascendant général, puis que je suis...
Sergent papa et sergent maman.
Oui, c'est ça. Puis que quand l'enfant se trompe, c'est « Hey, qu'est-ce que tu viens de faire là? Puis ça n'a pas d'allure. Puis là, j'avais fait confiance. » Et si je suis beaucoup dans la critique, le jeune, à un moment donné, il va se protéger. Puis oui, il va mentir.
Mais l'autre point, je pense que c'est qu'on ne veut pas que nos enfants subissent aucune conséquence négative.
Exact.
Jamais. Puis à un moment donné, il faut se dire, bon, là, il va être en retard à l'école.
Oui.
Puis il va pas remettre son devoir. Puis il va être obligé de faire un travail, une copie. Puis ça va être ça qui est ça. Mais c'est dur quand même à accepter,
ben oui,
on dirait.
Puis ça commence quand ils sont tout petits. Puis que là, on a le petit, là, mettons, de 18 mois qui est en train de grimper sur le divan. Puis là, on fait, il va tomber. Bien, c'est facile pour nous de le pogner puis de l'asseoir. Mais à quelque part, il faut parfois qu'il tombe.
Laisse
pour apprendre.
Planter.
Ben oui, puis je vais l'accueillir, petit poulet.
C'est drôle.
Mais tu sais, puis je vais le consoler, mais il faut qu'il tombe pour apprécier le danger.
Je me souviens que c'était un débat chez nous. Je me souviens que mon père disait ça à ma mère. Laisse-la se planter. Laisse-la.
Oui.
Elle veut faire ça, elle est convaincue que c'est le bon mot. Oui. Laisse-la. On va être là, mais qu'elle se plante, on va l'aider à se reconstruire.
Exact. Tu sais, moi, ça, c'est une des affaires qui m'a fait le plus triper dans le retour que ma fille m'a fait sur son éducation. C'est, elle me disait, maman, j'ai toujours senti que je pouvais faire mes propres choix, puis que même si je me trompais, tu ne me planterais pas. Puis que.
Ouais, pas de je te l'avais dit, là.
Non, c'est ça. Puis que tu allais m'accompagner, mais qu'il fallait que j'assume, par contre. Puis ça, je me disais, je suis super contente de ça. Puis effectivement, ça commence très, 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 très tôt.
Puis comment tu trouves la saine posture d'autorité, mettons, à travers tout ça? Là? Fait que pas le parent trop lousse, mais pas le parent en cage non plus. Parce qu'il y a comme. À quel moment le soutien devient du surcontrôle?
Ben, c'est là où Nancy Doyon devient la solution! Un programme en 12 semaines, pour vrai, qui s'appelle le Bootcamp Parent Leader. Moi, je parle beaucoup de leadership parental. Tu sais, moi, j'ai une entreprise dans la vie. Hein. Je suis le leader de mon entreprise. Ben, je prends pas toutes les décisions. Je fais pas tout à la place de mes employés. Je leur laisse une certaine dose de latitude. Quand ils se trompent, on reprend ça. On regarde comment mieux faire. Mais en même temps, je les laisse pas complètement lousses sans leur donner de guidelines. T'sais. Fait que c'est un peu l'équilibre entre les deux.
C'est tellement un bon point. Moi, je me rappelle mes années de gestionnaire, puis T'sais, Véro, tu parlais de tes enfants tantôt. Mm-hmm. Là. Moi, j'avais mis une affiche à un moment donné sur la porte de mon bureau. C'était « Avez-vous essayé d'y penser avant de me poser la question? »
Oh mon Dieu, j'ai failli faire un chandail de même.
À coûte, à un moment donné. C'est tellement drôle. Mais bon, les employés, c'est déjà des adultes. Mais pour les enfants, est-ce que tu sais des trucs concrets? Là? Par exemple, bon, moi, j'ai des petits TDAH à la maison. Uh-huh. Là, fait que les culottes de neige, puis les cache-coups. Puis il faut beaucoup, disons, séquencer les demandes. Hein, parce que sinon, il n'y a rien qui se fait. Là.
Un bel exemple pour ça, le matin, j'ai des enfants à TDAH, j'ai ça à la maison aussi.
Oui, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, au lieu de leur dire « Hey, oublie pas ton cache-cou, oublie pas tes pantalons, est-ce que tu as fait signer ce que tu avais à signer? » Ben, tu peux leur demander « Est-ce que tu as tout ce qu'il te prend? » Vérifie.
As-tu fait tout ce que
tu
avais à faire?
Oui, est-ce, ils me répondent « Oui, oui. »
Et là, à quelque part, il y a un moment donné ouais. où il faut le laisser aller à l'école puis qu'il manque des affaires. Moi, j'avais fait aussi avec ma fille quand elle était plus jeune, on avait fait des pictogrammes puis on les avait mis sur le bord de la porte. On disait « Va voir tes pictos. » Puis, à un moment donné, on a remplacé les pictos par juste le chiffre 4.
Quatre choses à penser.
Oui, tu as tes quatre affaires à penser. Fait que là, je disais « Manu, t'es prête? 4. » Elle a dit « Ah oui, elle tape ça. » Et donc, on a diminué progressivement le soutien, mais juste régulièrement. Tu sais, tu dis « Tu as-tu pensé avant de me poser la question? » Hey, des fois, on ne laisse même pas nos enfants nous poser la question. Olivier revient de l'école en disant « Ah, j'ai oublié mon cahier de mathématiques. » Et là, nous autres, super parents, ta-ta-da, ben regarde, appelle la deuxième voisine, puis là, on va aller chercher le cahier, puis il va faire une copie. On trouve les solutions.
Maman
a
toujours
place.
La solution.
On peut poser une question plutôt que donner la réponse des fois? Ben bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça?
C'est ça,
t'es rendu où dans ton
idée?
Horaire, dans ta routine? Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Exact. Puis là, on a une génération d'enfants, je ne sais pas.
Ah, oh, Seigneur!
Fait que là, on laisse mijoter à feu doux. Ben écoute, je vais aller faire une brassée de lavage.
Pense-y!
Puis, et là, ben tu sais, si on voit que l'enfant réfléchit vraiment et qu'il cherche à trouver des solutions, je vais l'aider. Mm-hmm. Mais tu sais, avec les enfants, des fois, c'est intéressant de dire, tu rentres dans ta barque, je vais ramer avec toi. Tu rames pas, je rame pas à ta place. C'est ta barque. Moi, mon diplôme d'études, là, il est terminé. Fait
que... J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est possible qu'on soit meilleur avec le deuxième enfant? Parce que j'ai l'impression quand même qu'on se recalibre un peu au deuxième. Ouais. On est pire avec nos aînés, hein?
Oui. Avec le premier, on est souvent pire parce qu'on veut tellement être un bon parent là, que là, on essaye de suivre le protocole à la lettre. Puis là, des fois, on est dans la surintervention, dans le surinvestissement, dans la surparentalité. Et là, tu sais, on veut trop. Rendu au deuxième, on se rend compte que...
Tu dévisses un peu,
sais-tu quoi? Mm. À 3 ans, même s'il boit un petit peu de 7-Up, là, il va s'en remettre. Tu sais, puis, il a les genoux râpés, ben écoute, on va souffler dessus, puis on passe à autre chose. Ben, sais-tu, écoute, on est mardi soir, mercredi soir, écoute, on va sauter pour asseoir. Sais-tu quoi? C'est pas la fin du monde. Puis, effectivement, on prend de l'assurance. Puis on est capable de faire un peu plus
de choses. Faudrait qu'on parle à un moment donné des différentes personnalités qui s'associent au fait d'être un aîné, un milieu ou un cadet.
Ah, tellement.
Fait une chronique là-dessus, puis moi, j'ai pas évidemment les skills que tu peux avoir, Nancy, mais je me souviens que je trouvais ça tellement drôle parce que nous, on est 3 chez nous, puis j'étais capable de vraiment. Tout le monde rentrait dans sa case. Là.
C'est plus précis que les signes astrologiques.
Ah, absolument. Fait que ça vaudrait la peine parce que j'ai l'impression qu'il y a des parents qui sont pas au courant d'à quel point ça a une incidence, des fois, sur le caractère de ton enfant, puis dans la façon dont tu l'abordes.
Exactement. Ça, puis l'enfant unique versus l'enfant qui a grandi dans une grande famille. T'sais, en grande famille, on apprend des affaires par soi-même que tu n'apprends pas tant. T'sais, moi, des fois, je pense, je me dis, écoute, si ma grand-mère qui a eu 12 enfants avait été derrière chacun de ses enfants pour lui dicter quoi mettre le matin, puis combien de bouchées manger, puis s'assurer qu'il ne manque jamais de rien, ben, elle serait devenue dingue. Ouais. Fait que, à un moment donné, elle n'avait pas le choix de les laisser aller, puis de dire, regarde, ils vont jouer dehors, ils s'organiseront bien.
Nancy, c'est toujours un plaisir. Chaque fois que tu viens, ça fait jaser. Véro, dès demain, tu vas pouvoir essayer de rendre Denis un peu plus autonome.
Mais mon Dieu. Denis, est-ce que tu as oublié quelque chose?
Est-ce que tu y as pensé avant de me poser la question?
Oh, mon Dieu. Ma vie vient de changer.
Nancy Doyon, coach familial SOS Nancy. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Elle a plein des solutions. N'hésitez pas à aider du monde en station. Des parents, je pense à Yann Marceau avec ses petits.
Oh, que
si! Si vous avez des problèmes, là, que ce soit avec les ados, les jeunes adultes ou les jeunes enfants, généralement, à de quoi en tête?
Et mon bootcamp, les ventes, c'est jusqu'à dimanche minuit. Là, fait que c'est le temps d'y penser. Ça vous tente d'embarquer dans l'aventure.
Vous êtes dans Gravé dans le retour. On revient dans les prochains instants. Denis qui revient demain.
Gravel,
votre conseiller en voyage.
Vous savez comment j'aime la bouffe de bonne qualité, et je vous parle souvent ces temps-ci d'Alimentation FC. Ça change une vie. Alimentation FC, c'est un fournisseur spécialisé en aliments de qualité. On parle ici de viande, de plats préparés, une entreprise familiale, j'aime toujours ça. Ils servent les familles du Québec selon leurs besoins, mais surtout selon leur budget. C'est idéal pour les familles, puis j'en parle parce que, tu sais, souvent avec les activités des enfants, l'horaire chargé, d'avoir de la viande, des poissons de qualité à portée de main, des mets préparés, on n'est jamais pris au dépourvu. Je trouve que ça fait bien dans le congélateur. Puis c'est pas pour rien que j'ai confiance. Les bouchers d'Alimentation FC cumulent 35 ans d'expérience de père en fils. On parle de tout plein de produits, bœuf, poulet, porc, poisson, fruits de mer, encore une fois, les fameux mets préparés. Plus de 300 coupes et variétés. Et il y a une promo vraiment intéressante en ce moment. Le concept est super simple. Alimentation FC vous offre un tirage de 6 mois de viande, jusqu'à concurrence de 2 500 $ parmi tous ceux qui vont commander pendant le mois de mars. Ça veut dire qu'il vous reste exactement, on est quoi, le 18, là? Mettons 12 jours. 12 jours, vous commandez sur le site d'Alimentation FC et automatiquement, vous êtes éligible au tirage pour 6 mois de viande gratuite. Me semble que ça fait bon, on a besoin. Le portefeuille Roche, là, 6 mois de viande, il me semble que tu remplis le congélateur, petite tranquillité d'esprit. Je trouve que c'est une super promo de la part d'Alimentation FC. Les essayer, c'est les adopter, c'est pas compliqué. Commandez alimentationfc.com.
Chez Scoop,